de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il a quelques éléments informés entre autres. Ministère des Affaires étrangères, indonésien et néerlandais discutent de la question de CEPA. KAI, Komuter et CRRC Sifan collaborent pour acquérir une nouvelle série, KRL. En faisant pression pour des élections pacifiques, l'agence de surveillance de l'électoral général de Singapour est tombée dans les poches des citoyens indonésiens. Crypto trading devient une stratégie pour accélérer l'économie numérique. 33 membres de la police nationale réalisent des réalisations dans le cadre de la mission de paix de la MINUS. Forum mondial de l'eau sensibilise le public à l'eau. Indonésie et Cambodge discutent de l'autonomisation des femmes et de la coopération économique. Mon cher Jouetard, voici la nouvelle en complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec la ministre néerlandaise des Affaires étrangères, Hanke Breunsloot, à La Haye, mercredi 31 janvier 2024. Au cours de la réunion, la ministre Retno et le ministre Hanke ont discuté, entre autres, des négociations actuellement menées par l'Indonésie avec l'Union européenne concernant l'accord de partenariat économique global, CEPA. Retno Marsudi a déclaré que depuis 2016, 16 cycles de négociations ont eu lieu et que l'on espère les négociations seront achevées dans un avenir proche. Retno Marsudi a dit:
mengenai isu bilateral, saya tekankan beberapa hal. Pertama, harapan agar plan of action atau rencana aksi untuk
le 17e cycle de négociation aura lieu en février 2024 en Indonésie. J'insiste sur le principe de l'avantage mutuel comme guide dans les négociations. C'est cet esprit qui doit être maintenu de la résolution des négociations. La ministre Retno Marsudi a également évoqué plusieurs politiques de l'Union européenne considérées comme préjudiciables à l'Indonésie, notamment celles liées à l'huile de palme et à la loi de l'Union européenne sur la déforestation. La ministre a également souligné que l'Indonésie continuerait à s'engager en faveur de l'industrie navale. Elle espère que les Pays-Bas continueront à soutenir les négociations sur l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne. Kereta Komuter Indonesia, ou KISA, Komuter, et CRRC Sifang Co. Ltd. ont signé mercredi un contrat de coopération pour l'achat de 3 nouveaux trains électriques KRL à Pékin, en Chine. Asdo Arrivianto, président directeur de KI Komuter SA, a déclaré que son parti avait acheté 3 séries KRL avec un investissement total de 783 milliards de roupies. L'acquisition de nouvelles installations KRL répond au nombre d'installations KRL conformément aux besoins de services des utilisateurs de la ligne de banlieue Jabodetabek en 2024-2025, qui a atteint près d'un million d'utilisateurs par jour. L'achat de nouvelles installations KRL fait également partie d'une série de réalisations des installations Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, KRL, qui ont été discutées lors d'une réunion de coordination présidée par le ministre coordonnateur des Affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, en juin 2023, à laquelle a participé le ministère des Entreprises d'État, ministère des Transports, ministère de l'Industrie, BPKP, INKSA et autres parties prenantes concernées. Auparavant, le 9 novembre 2023, KI Komuter a également signé un protocole d'accord avec CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. pour une coopération mutuellement avantageuse dans le développement du chemin de fer. Installation en Indonésie. Le comité de surveillance des élections générales à l'étranger, Panwaslu à Singapour, s'est rendu directement dans les enclaves des citoyens indonésiens de ce pays pour socialiser les règles qui s'appliquent afin que les élections générales se déroulent de manière ordonnée et pacifique. Le président de Panwaslu de Singapour, Nanda Handaru, a déclaré jeudi à l'Antara que le Panwaslu donne toujours la priorité à la socialisation sur les règles et les interdictions électorales, tant celles qui s'appliquent en Indonésie qu'à Singapour, afin que les citoyens indonésiens ne violent pas les règles électorales, réglementations gouvernementales de Singapour et participent régulièrement aux élections pacifiques. Pendant ce temps, Nanda a déclaré qu'à Singapour, il y a 106 515 personnes inscrites sur la liste électorale permanente pour participer au vote qui aura lieu le 11 février 2024. Commodity Futures Trading Supervisory Agency, COFTRA, ministère indonésien du commerce, a déclaré que le commerce d'actifs cryptographique est l'une des stratégies du gouvernement pour accélérer l'économie numérique de l'Indonésie. Le chef du Bureau de développement et de développement de l'Agence de surveillance du commerce à terme des matières premières, Tirta Karma Sinjaya, a expliqué que le gouvernement crée de manière proactive des politiques qui soutiennent la croissance de l'écosystème cryptographique, y compris des réglementations qui facilitent l'innovation et sensibilisent le public au potentiel d'investissement dans les actifs cryptographique Tirta lors de l'Indonésie Crypto Outlook 2024 à Jakarta mercredi a déclaré sur la base des données de l'Agence de surveillance du commerce des contrats à terme sur matières premières de 2023. Il y avait 18,51 millions d'investisseurs en natifs cryptographiques en Indonésie, soit une augmentation de 9,8% depuis le début de l'année. Les transactions sur les actifs cryptographiques ont également atteint 149,25 billions de roupies, même si les transactions devraient diminuer par rapport à 306 400 milliards de roupies en 2022. Cette industrie présente toujours un fort potentiel économique. Cette performance extraordinaire en 2023 est soutenue par divers développements positifs dans le monde de la cryptographie. Au total, 33 membres de la police indonésienne qui ont servi en tant qu'officiers de police individuels ont réalisé des exploits en remportant des prix des autorités de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud. Mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS pour leur contribution à maintenir la paix dans la région du Soudan du Sud. Le chef de la division des relations internationales de la police nationale de la République d'Indonésie, l'inspecteur général de la police Krishnamurti, a déclaré jeudi 1er février 2024, dans un communiqué à Jakarta, que le prix avait été décerné par le commissaire de police des Nations Unies, la MINUS, Christine Fossen, à Juba, Soudan du Sud, mercredi, heure locale. Christine Fossen a exprimé son accueil et son appréciation pour la contribution et la présence de la délégation de la police indonésienne dans la zone de mission dirigée par l'inspecteur général de la police Krishnamurti. Selon elle, les réalisations de la police indonésienne des Nations Unies pour la MINUS jusqu'à présent ont été tout à fait cruciales, tant dans les secteurs administratifs que dans le développement des capacités, en particulier dans le secteur opérationnel, en particulier dans la préparation de la mission de maintien de la paix des Nations Unies pour soutenir les élections générales qui est détenue par le gouvernement du Soudan du Sud. Selon Krishnamurti, ce prix renforce l'engagement de l'Indonésie à jouer un rôle actif dans la mission de maintien de la paix mondiale. Le ministère des Travaux publics et de l'Habitation publique, PUPR, à travers la Direction générale des ressources en eau, a révélé que le 10e Forum mondial de l'eau à Bali, en mai 2024, vise à sensibiliser le public à l'importance de la gestion de l'eau. C'est ce qu'a déclaré le directeur général des ressources naturelles du ministère du PUPR, Bob Arthur Lambogia, dans son discours prononcé par le directeur des opérations et de l'entretien de la Direction générale des ressources naturelles de PUPR, Mohamed Ade Rizaldi, lors d'un séminaire suivi en ligne à Jakarta mercredi. Selon lui, le problème de l'eau est un problème auquel nous devons faire face ensemble, tant à l'échelle locale que mondiale. Le 10e Forum mondial de l'eau a pour thème « L'eau pour une prospérité partagée ». Lors de ce forum, l'Indonésie et les pays membres du Conseil mondial de l'eau ont recherché divers mécanismes et approches pour résoudre les problèmes liés à l'eau. Il existe trois processus qui discuteront spécifiquement des questions liées à l'eau qui sont étroitement liées à la politique régionale et thématique. Le forum ouvrira un espace de discussion entre les acteurs de plusieurs régions, à savoir la Méditerranée, l'Asie-Pacifique, l'Amérique et l'Afrique. Selon Bob, la synergie de ces trois processus est nécessaire pour réaliser l'eau comme moyen de prospérité partagée. L'autonomisation des femmes et la coopération économique étaient les deux principaux sujets de la réunion de l'ambassade d'Indonésie à Phnom Penh et du Parlement cambodgien. La réunion s'est déroulée en présence du président du Parlement cambodgien, Samdech Moha Ratsapeatika Tipadei Kuan Sudari, et de l'ambassadeur indonésien Santo Darmo Sumarto, mardi 30 janvier 2024. L'ambassadeur Santo a déclaré que les femmes jouent un rôle important dans la conduite de l'économie d'un pays. Il espère également que cette réunion pourra être la première étape vers un renforcement plus concret de la coopération bilatérale. L'ambassade d'Indonésie à Phnom Penh a souligné les efforts visant à autonomiser les femmes et à accroître la coopération économique comme objectif principal. Lors de la réunion, l'ambassadeur Santo a expliqué que l'une des mesures concrètes consistait à accroître la coopération économique. Actuellement, l'Indonésie est le sixième partenaire du Cambodge, avec un valeur commerciale dépassant les milliards de dollars américains. En outre, l'Indonésie soutient l'amélioration de l'éducation des citoyens cambodgiens en Indonésie. Pendant ce temps, Samdeh est la première femme à réussir à occuper le poste le plus élevé de présidente du Parlement au Cambodge. Cette rencontre a créé une dynamique positive dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Bonsoir, voici l'accueil diplomatique dont le titre est « Le consulat général d'Indonésie à Hong Kong lance un programme de protection des citoyens indonésiens basé sur l'IA ». Le consulat général de la République d'Indonésie à Hong Kong a lancé un programme de protection des citoyens indonésiens basé sur l'intelligence artificielle IA pour améliorer les services destinés aux citoyens indonésiens à Hong Kong et à Macao. Le consul général d'Indonésie à Hong Kong, Yul Edison, dans une déclaration écrite reçue par Antara lundi 29 janvier, a déclaré que le consul général d'Indonésie à Hong Kong apporte toujours des améliorations grâce à une coordination étroite avec des éléments du gouvernement de Hong Kong et des agences de recrutement. Le consulat général est également toujours réactif aux commentaires mesurables et facilite la résolution des cas et l'innovation en matière de services grâce à des hotlines basées sur l'IA. Cette déclaration a été faite lors du programme de protection des citoyens indonésiens et de dialogue interactif le 28 janvier 2024, auquel ont participé des travailleurs migrants indonésiens, des étudiants et des professionnels. Selon Yul Edison, l'un des principaux programmes de travail du Consulat général d'Indonésie à Hong Kong en 2024 est d'améliorer les services destinés aux citoyens indonésiens grâce à l'utilisation de hotlines basées sur l'intelligence artificielle et à l'apparition du dernier site web. L'activité vise à fournir des rapports et une responsabilité publique sur les performances du Consulat général indonésien à Hong Kong en 2023 et le programme de travail prévu pour 2024. La hotline utilise le développement de l'intelligence artificielle pour collecter des informations générales, répondre rapidement aux questions entrantes et transmettre des messages aux responsables si certains cas sont détectés et nécessitent un traitement spécial immédiat. Outre la ligne d'assistance téléphonique, le consulat général d'Indonésie à Hong Kong a également développé un site web convivial comme moyen de diffuser des informations publiques. À travers le site web kemlu.go.id/Hong Kong/ID, les citoyens indonésiens Hong Kong peuvent trouver des informations importantes concernant divers services du consulat général d'Indonésie à Hong Kong, notamment les services consulaires, les passeports, l'immigration, la protection, les informations socioculturelles et économiques, les communiqués sur les activités du consulat général d'Indonésie à Hong Kong et d'autres informations pertinentes. Le développement de cette hotline basée sur l'intelligence artificielle a été réalisé par le consulat général d'Indonésie à Hong Kong en collaboration avec Telin Hong Kong, l'une des entreprises publiques indonésiennes opérant à Hong Kong, avant que les médias sociaux déjà détenus par le consulat indonésien. Les réseaux sociaux les plus courants à Hong Kong sont Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Chers auditeurs, c'était la clé diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 1er février 1979. Ayatollah Khomeini est retourné en Iran. Ayatollah Khomeini était un chef religieux et homme politique islamique chiite iranien. Le 1er février 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini rentre triomphalement en Iran après 15 ans d'exil en France par le gouvernement du Shah. Le retour de Khomeini est intervenu 2 semaines après que le Shah et sa famille ont quitté le pays et que la révolution islamique qui a conduit à un gouvernement fondamentaliste sous la direction de Khomeini s'est installée en Iran. Il est devenu le leader de la révolution iranienne de 1979 qui a témoigné le renversement du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Après la révolution, Khomeini est devenu le guide suprême du pays. Passons maintenant à l'événement du 1er février 2003, la navette spatiale Columbia a explosé. La navette spatiale Columbia appartenant aux États-Unis a explosé dans le ciel lorsqu'elle atterrirait au centre de la station spatiale Kennedy en Floride le 1er février 2003. 7 astronautes ont été tués. L'officiel de l'Agence spatiale nationale américaine, NASA, a mentionné l'accident survenu lorsque la navette spatiale construite en 1981 se trouvait à une altitude de 60 000 pieds de la Terre à une vitesse de 20 000 km par heure. La catastrophe de Columbia s'est produite lorsqu'un morceau de mousse de la taille d'un sac a heurté l'aile de l'avion et a laissé un trou dans la dalle de protection, rendant l'avion vulnérable lors de sa pénétration dans l'atmosphère. Avant d'exploser, la navette venait de terminer sa 28e mission après avoir décollé le 16 janvier 2003. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 1er février 1992. L'UNESCO a désigné le parc national de Junkulon comme site de patrimoine mondial naturel. Le parc national de Junkulon est un parc national situé dans la province de Banten qui couvre les zones des sous-districts de Sumur et de Chimangu, la résidence de Pandeglang. La Commission du patrimoine mondial de l'UNESCO a désigné le parc national de Junkulon comme site naturel de patrimoine mondial le 1er février 1992. L'un des privilèges du parc national de Junkulon est d'être un habitat naturel pour les rhinocéros de Java et gibbons javanais en voie de disparition. Ces auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Tersipu buatku malu-malu saat bersamamu, saat kusapa dirimu. Oh merinding buluku, oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, La voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Ces auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, le rôle important de l'agence de conservation dans la gestion de la flore et de la faune. La ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, a déclaré que l'agence de conservation joue un rôle important dans le soutien à la gestion de la flore et de la faune, ainsi que dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'agence de conservation est un mécanisme de gestion de la faune hors site destiné à soutenir la gestion de la faune et de la flore sur le site. Dans une déclaration mardi à Jakarta, la ministre a déclaré que l'agence de conservation d'intérêt public avait une fonction importante qui unit la conservation, l'éducation et le loisir sain. Outre l'aspect de la conservation, l'agence a également un aspect commercial qui nécessite une licence du gouvernement. De plus, l'agence de conservation a également potentiellement une valeur d'économie de carbone dans laquelle la végétation de la zone de véranda peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, stocker et absorber le carbone. Actuellement, le ministère de l'Environnement et des Forêts met en œuvre le Flow Net 5 2030, Forestry and Other Land Uses Net 5 2030, qui s'aligne sur la cible et l'objectif du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, Convention sur la diversité biologique CBD. Dans le cadre de Flow Net 5 2030, la conservation de la biodiversité s'est transformée en atténuation à travers l'intervention sur le développement de la population et de l'habitat. La ministre Siti Nurbaya Bakar a en outre expliqué que l'utilisation de la valeur économique du carbone du point de vue du statut des terres dans une agence de conservation qui se transforme généralement en droit de propriété a le potentiel de développer un système carbone à travers le boisement, la réhabilitation et le reboisement ARR. Actuellement, il existe 82 unités d'agence de conservation d'intérêt public enregistrées auprès du ministère de l'Environnement et des Forêts. Cependant, la ministre Siti Nurbaya Bakar s'est rendue compte que toutes les agences de conservation ne possèdent pas les installations et les ressources appropriées pour gérer la faune et la flore. Le concept du milieu universitaire de conservation a besoin d'un soutien où le personnel des agences de conservation peut obtenir des connaissances scientifiques et des informations sur la gestion de la faune. Il a également besoin de connaissances et de personnel professionnel tel qu'un conservateur et un gardien de manuel. Pour l'utilisation de technologies de sélection, il peut partager ses connaissances avec d'autres agences de conservation, comme les éleveurs ou les personnels de conservation sur le terrain. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, a également affirmé la nécessité d'atteindre le résultat maximum en matière de réduction des émissions de carbone afin que les agences de conservation soient gérées de manière professionnelle, fournissent des installations représentatives et disposent d'une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de la conservation. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Kisah baru di jalan itu aku menggoda dirimu. Naik sepeda ku berkenalan denganmu. Ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu. Dan kau pun tersenyum memberiku harapan. Na 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 na. Spera, spera, spera. Membawaku spera, spera, speraku memberi kisah baru. Di jalan itu aku menggoda dirimu. Naik sepeda ku berkenalan denganmu. Oh, ku kayu lebih kencang mengikuti speramu.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, lors d'un voyage culinaire en Papouasie, vous ne pourrez pas déguster uniquement la cuisine papeda. Il y a les délices culinaires des Swamening que vous devez également essayer. Le Swamening ou Gedi Gulung est un aliment typique de la communauté traditionnelle de la vallée de Grim, district de Nimboran, résidence de Jayapura. Ce plat culinaire est généralement servi lors des cérémonies traditionnelles locales et est cuit sur des poteries en argile. Le swamening est composé de sayur lilin ou en latin saccharum edule, des feuilles de gedi ou hibiscus comestible, de noix de coco et de sagou. Pour le cuire, les feuilles de gedi sont disposées en alternance sur une surface pleine, puis du sagou est saupoudré sur les feuilles, puis de la noix de coco est ajoutée si nécessaire. Saccharum edule pelé, puis disposé uniformément, enroulé lentement et attaché avec une ficelle tirée de sa peau. Ce rouleau est ensuite bouilli dans un mélange d'eau et d'épices comme des tomates, du poivre, du sel, de la citronnelle jusqu'à ébullition. Chers auditeurs, le swamening est le principal type d'aliment qui peut être consommé directement ou avec l'ajout d'autres protéines comme le poisson. Le swamening est également classé comme un aliment sain car il est riche en fibres et utilise beaucoup de légumes. En dehors de cela, le sagou est également bon pour la digestion. Souvenir, n'utilise pas non plus d'huile. Elle est donc saine pour une consommation quotidienne. Dans la vallée de Grim, les gens utilisent souvent l'eau de mer comme aromatisant ou le sel qu'ils fabriquent eux-mêmes à partir de sa gouttière coupée au fond. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.
Serge Littard, c'était
la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Festival célébrant de la gastronomie indonésienne. L'Indonésie, avec sa diversité culturelle et géographique, passionne non seulement le monde par son panorama naturel enchanteur, mais aussi par sa richesse gastronomique inégalée. De Sabang jusqu'à Merauke, chaque région de l'archipel propose des plats uniques, reflétant le patrimoine historique et l'abondance des ingrédients alimentaires locaux. Pour préserver la culture et les recettes gastronomiques indonésiennes, Pusaka Rasa Nusantara organisera un festival sur le thème « Célébrer la gastronomie indonésienne » pour préserver les recettes traditionnelles menacées d'extinction. Le chef de l'équipe de Pusaka Rasa Nusantara, Melati Batubara, a déclaré que l'événement de « Célébrer la gastronomie indonésienne » serait organisé pour mettre en valeur les recettes gastronomiques indonésiennes et la culture d'un centre confronté à une crise d'extension. Célébrer la gastronomie indonésienne est un projet collaboratif mené par la Fondation Nusa Gastronomique Indonésienne, qui est soutenu par le gouvernement des États-Unis et par le programme du Fonds des ambassadeurs pour les préservations culturelles de l'ambassade des États-Unis à Jakarta. L'Amérique et l'Indonésie ont des similitudes dans des traditions culturelles riches et variées. Pusaka Rasa Nusantara est le premier projet en 20 ans d'histoire du Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle à se concentrer sur la préservation du patrimoine culinaire et des traditions alimentaires. À travers la recherche, à l'exploration, sur le terrain et à la documentation de livres et de vidéos, le projet a rassemblé une riche histoire culinaire étroitement liée aux valeurs culturelles et aux contributions à la durabilité environnementale. Le festival célébrant la gastronomie indonésienne aura lieu à Taman Ismail Marzuki du 2 au 11 février. Il y aura une salle de discussion avec des chefs célèbres sur les délices culinaires locaux, un musée gastronomique éphémère, une projection de films sur le parcours de préservation des recettes traditionnelles et une comédie stand-up sur un thème culinaire. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta sur le thème Festival célébrant la gastronomie indonésienne. Merci à tous, à bientôt.
Mm-hmm. mungkin ku mencoba melupakan dirinya, semakin ingin ku menggapainya. Cinta ini takkan hilang meski langit tampaknya memisahkan kita, walau sejalan. Cinta ini tak terhapus meski jendela waktu berbeda. Terlalu berat ku langkahkan kaki.
Chargé tard, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Mayang Sari. Chers amis, cette chanteuse, dont le nom complet est Agustina Mayang Sari, est une chanteuse des années 1990. Elle a hérité du sang artistique de ses deux parents. Le père est marionnettiste, tandis que la mère est chanteuse. Mayang Sari est également connue pour avoir la capacité de chanter ou de chanter des chansons javanaises. Cependant, son nom est devenu connu après être entré dans le genre pop et avoir chanté des chansons d'amour. L'une des chansons pop à succès de Mayang Sari est la chanson Tiada Lagi. Cette chanson fait partie de l'album Tiada Lagi, sorti en 1998. Les paroles de cette chanson parlent de l'échec de l'amour. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Tiada Lagi, chantée par Mayang Sari. Bonne écoute.
Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus menahan rasa kecewa dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini. Harus menahan
kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.